Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir au cours de cette émission une voix connue, en particulier des auditeurs de Canal Academy, puisque notre invité anime sur notre web radio une chronique, et cela de façon régulière. Mais il faut souligner aussi que sa voix parle à tous les amoureux de la musique allemande des 17e et 18e siècles, berceau, pourrait-on dire, de la grande musique classique, celle des Bach, Buxtehude, Schütz, Mozart. Gilles Cantagrel, bonjour.
Bonjour.
En vous accueillant, j'accueille un musicologue, un écrivain, conférencier, un pédagogue. Vous avez étudié la physique, l'histoire de l'art pour remonter la machine du temps, la musique à l'École normale et au Conservatoire de Paris. Vous avez pratiqué l'orgue, la direction chorale, le journalisme, la communication. Vous avez en effet écrit dans différentes revues musicales. On vous retrouve ensuite dans les fonctions de producteur puis de directeur des programmes de France Musique. Vous devenez vice-président de la commission musicale de l'Union européenne de radio-télévision. Vous êtes maître de conférences à la Sorbonne et un peu partout dans le monde, des conférences appréciées dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. En 2006, vous êtes élu dans cette maison, vous êtes élu correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. On parle de vous comme d'un expert reconnu du cantor de Leipzig. Vous lui avez consacré une belle partie de votre travail, une belle partie de votre vie, dans plusieurs ouvrages. Bach en son temps. Alors mettons-nous tout de suite d'accord, Gilles Cantagrel. On prononce le nom de Bach aujourd'hui devant les micros de Canal Academy. Version française ou version allemande?
Alors je vais répondre que rien n'est très simple. Il y a quand même, depuis l'époque de Bach, on dit Bach en France. Hein. Quand on est en Suisse, on dit Bach. En Allemagne, évidemment. Un peu partout ailleurs. En France, on dit Bach. Et je vais me justifier. Il y a une lettre du futur Frédéric II de Prusse, qui n'était à l'époque que le prince héritier, qui écrit à sa sœur aînée, Wilhelmine, une lettre en français parce qu'il pratiquait le français, pas très bon d'ailleurs, en disant « Il y a ici un jeune compositeur, un compositeur d'ailleurs, écrit-il, qui s'appelle Bach, et il écrit B-A-C-K en français, et la lettre date de 1738 ». Un peu plus tard, Denis Diderot, revenant de chez la Grande Catherine vers l'ouest de l'Europe, passe par Hambourg et écrit à Carl-Philippe Emmanuel Bach, fils cadet de Jean-Sébastien, pour avoir un rendez-vous, pour lui demander des... parce qu'il était extrêmement célèbre, et lui demander des musiques nouvelles pour les confier à sa chère fille, qu'il aimait beaucoup et qui était, selon son dire, une excellente clavecinière. Et alors, il se recommande auprès de Carl-Philippe Emmanuel en disant « Je suis un ami de votre frère Jean Bach, B-A-C-K ». Ce qui veut dire qu'au XVIIIe siècle et du vivant même de Jean-Sébastien, en français, on disait « Bach ». Alors, tant pis pour les cuistres, mais je crois qu'il faut dire « Bach » en français, parce qu'on a toujours dit « Bach ». Cela dit, bon, et pratiquant quand même l'allemand et ayant l'occasion de m'exprimer dans des pays germanophones, quelquefois vous allez entendre « je mélange, je ne sais plus ce qu'il faut dire, Bach ou Bach ». Donc, il n'y a pas de réponse à votre question.
Alors, je poursuis donc dans l'énoncé des titres de vos différents ouvrages. « Bach », donc, en son temps. Le moulin et la rivière, air et variations sur Jean-Sébastien Bach, qui vous a valu le grand prix de la littérature musicale de l'Académie Charles Cros, et puis le prix Catenacci ici à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, on suivit Bach, pédagogue, passion Bach, l'album d'une vie, Bach oratoria, mais celui-ci publié à Londres, hein, je crois.
Oui, alors oui, c'était pour le magnifique livre-programme du Bach Pilgrimage, c'est-à-dire le pèlerinage Bach, que John Eliot Gardiner, Sir John Eliot maintenant, a réalisé au cours de l'année 2000, donc les 250 ans de la mort de Bach. Tous les dimanches et fêtes, il s'est promené à travers l'Europe, il a même fini à New York, en faisant jouer les cantates du jour. C'était une entreprise extraordinaire, lui qui est un fou de Bach depuis son enfance. Et il a réalisé ce rêve et il a tout fait enregistrer et maintenant tout est disponible en disque.
On suivit la rencontre de Lübeck, Bach et Buxtehude, de Schütz à Bach, ensuite la musique baroque en Allemagne, les cantates, les fameuses cantates de Jean-Sébastien Bach chez Fayard, et puis donc le livre qui nous réunit en ce moment devant les micros de Canal Academy, Jean-Sébastien Bach, Passion, Messe et Motet, donc toujours chez Fayard. Vous êtes fidèle à cet éditeur.
Ah oui, 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 c'est un vieux mariage avec la maison Fayard et je m'en félicite tous les jours.
Gilles Cantagrel, vous souvenez-vous de votre toute première émotion musicale au contact de la musique de Jean-Sébastien Bach?
Non, je ne peux pas m'en souvenir parce qu'il y a un âge où on n'a pas de souvenir conscient. J'aurais presque envie de vous répondre en latin « in utero matris », dans le sein de ma mère. Parce que j'ai le grand bonheur d'être venu au monde dans une famille de mélomanes, passionnés depuis 4 générations, et on pratiquait Bach à la maison, donc chez mes grands-parents, ma mère jouait du piano, j'en ai entendu autour de moi, toujours, donc je m'en suis nourri avec le lait maternel. Enfin, pour moi, c'est une partie de mon être, totalement. D'ailleurs, pas seulement Bach, hein, je dois dire, je suis un passionné fou de toute la musique des origines à nos jours, y compris la musique contemporaine, bien sûr, qui a des trésors, elle aussi. Mais pourquoi Bach ? Eh bien, c'est une question qu'on m'a parfois posée et à laquelle il n'y a évidemment pas de réponse. Comment expliquer ? Je pense que si on avait demandé à Vittorio Del Litto, le grand spécialiste de Stendhal, qui connaissait certainement tout aussi bien Balzac, Gautier, Dumas et que sais-je, et Eugène Sue, pourquoi Stendhal ? Bon, il n'aurait pas pu répondre, j'imagine, parce qu'il y a un moment où quelqu'un qui forcément fait plus ou moins de la biographie ou de la critique, en tout cas de l'analyse historique, va non pas s'identifier avec l'un des personnages qu'il étudie, mais s'analyser un peu lui-même au travers d'un grand homme et donc se comprendre un petit peu mieux, je dirais, comme disent les physiciens, entrer en résonance avec tout d'un coup une pensée, un art. Et ça a été mon cas pour Bach. Autant j'aime vraiment, je peux dire, Vivaldi, Telemann, Rameau, pour ne parler, ou Händel de ses contemporains, ou bien pour toute la musique, Monteverdi, Stravinsky, Bartok, Wagner. Je connais des opéras de Wagner quasiment par cœur. Mais c'est avec Bach qu'il y a une espèce de communion intime. Et d'ailleurs, à force maintenant, depuis mes premières notes sur Jean-Sébastien Bach, je les avais écrites pour un condisciple au lycée. J'étais tout jeune, il y a donc ça plus de 60 ans. Et voilà, donc il a accompagné toute ma vie. Et à force d'étudier, à force de m'informer, documenter sur tout le contexte, naturellement, sur lui-même, et d'avoir publié, eh bien, j'ai un peu l'impression que je l'ai connu.
Donc ça dépasse un peu le contexte du compagnonnage, d'après ce que vous disiez. Et pour répondre à la question « Comment devient-on le spécialiste internationalement reconnu du cantor de Leipzig ?» Jeu de circonstances, prédestination, puisqu'on a affaire à un piétiste, alors on peut oser ce mot-là peut-être ?
Non, 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 il est fondamentalement orthodoxe, mais avec des tendances piétistes. C'est un peu compliqué à expliquer. Si on entre dans l'histoire de la religion, il est orthodoxe parce que c'est un orphelin. C'est quelqu'un qui a besoin de reconstruire le monde, son monde intérieur, et donc il a besoin d'un cadre. Ce cadre qui a explosé avec la mort sous ses yeux de ses deux parents, alors qu'il avait 9 ans. Et donc il y a quelque chose, je pense, chez l'orphelin qui va devenir un autodidacte et un pédagogue, forcément, ça fait aussi partie de sa donnée fondamentale. Il y a un besoin d'ordre, de méthode, de rigueur, son contrepoint le montre. C'est une espèce de prédestination, peut-être mentale, qu'il a, mais qui a dû être avivée par ce fait biographique. Et alors, vous savez, les orthodoxes luthériens faisaient grand cas de la musique, puisque Luther lui-même disait que c'était un don de Dieu, qu'elle agissait comme exorcisme, qu'il n'y avait rien de plus beau après la théologie que la musique, etc. Ça, c'est bien connu. Mais il y avait une tendance piétiste qui n'est pas opposée à l'orthodoxie, qui est, je dirais, le versant ensoleillé, le versant réchauffé du luthéranisme qui avait tendance, déjà à son époque, à s'enfermer dans une institutionnalisation sclérosante. Eh bien, le piétisme va apporter un contact renouvelé avec les écritures, de la sensibilité en prise directe sur les écritures, sans passer par des rituels. Et en cela, cette émotion qu'il peut ressentir en lisant l'Évangile, par exemple, qui est un théologien hors pair, il connaissait à fond tous les textes, eh bien, en cela, il aurait une tendance piétiste, bien sûr. Bon, on peut le dire comme ça.
Est-ce l'homme, sa vie, son travail, cette fameuse question, vous savez, l'homme, sa vie et puis son œuvre, ses engagements, son âme, qui exerce cette attirance devenue essentielle dans votre propre parcours, ou sa musique qui tient la place essentielle?
Écoutez, le tout est si intimement lié. C'est plus ou moins vrai selon les créateurs, chez les très grands, c'est profondément lié. Alors, bon, ça forme un ensemble. Sa musique, il a beau parler de Dieu dans sa musique religieuse, parler des hommes dans sa musique, je dirais profane, encore que cette distinction n'avait pas cours à l'époque, eh bien, c'est comme toujours, les plus grands, c'est de lui aussi qu'il parle, forcément. De même que le biographe, qu'on le veuille ou non, parle un petit peu de lui-même, ce que j'ai toujours essayé scrupuleusement de faire, sauf si j'éprouve le besoin de prendre la parole. Il me semble que, pour bien montrer la part individuelle et subjective que je pourrais éventuellement émettre dans une hypothèse, mais de toute façon, on ne parle que de soi. C'est triste, mais enfin, on ne connaît la vérité, il n'y a pas de vérité, enfin, on ne connaît ce que l'on croit être une vérité, la réalité en tout cas, qu'au travers du prisme de sa propre personnalité. Forcément, on parle un peu de soi. Et la musique de Jean-Sébastien Bach parle tellement de lui. Et là, il y a par exemple, à la fin du Credo de la Messe en Si, un épisode qui m'a bouleversé il y a très longtemps et qui a orienté mon travail sur Bach, quand il dit « Je confesse en une seule église, en un seul baptême, bon, l'église sainte catholique, je dis bien catholique au sens d'universel, naturellement, apostolique, et j'attends la résurrection des morts. » Et à ce moment-là, le vieux Bach, il est au terme de sa vie, sa vue l'abandonne, l'écriture tremble sur le manuscrit que j'ai vu, et ce sont ses derniers mots en musique. Et au moment où il dit « J'attends maintenant la résurrection des morts », il y a un passage de 26 mesures, c'est court, complètement atonal, on est dans une espèce de... On a perdu tous les repères, on vogue en haute mer dans l'obscurité totale et on ne voit pas le bout de ce tunnel de l'âme, de cette noirceur, comme si le vieil homme, qui se sait maintenant articulo mortis, ou presque, donc il sait que ce sont ses derniers mots, forcément, et qu'il prononce, et qui sont les mots de sa foi sur laquelle il a bâti toute sa vie, il dit « Maintenant j'attends la résurrection des morts », et au moment où son corps même le lâche, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça tient debout ? Est-ce que je n'ai pas bâti ma vie sur le sable, comme le dit saint Paul ? Est-ce que... Et là, on le sent pris d'une angoisse effrayante. Donc là, il a beau nous parler, nous décliner les articles du credo, du symbole de Nicée, là, tout d'un coup, c'est de lui qui nous parle, évidemment. Et muni de cette révélation que j'ai eue, et d'ailleurs j'étais bouleversé parce que j'ai lu dans un livre récent sur la dernière toile du Titien, due à mon grand ami Philippe Bossan de l'Académie française de cette maison, donc, qu'il avait eu le même choc à peu près à la même époque que moi en écoutant ce passage de la Messe en Si et le rencontrant après avoir lu ce petit livre absolument merveilleux qui s'appelle « Le chant du cygne ». Et je lui ai dit « Mais quand est-ce que ça t'est arrivé ?» Et on a confronté nos dates, c'était presque à la même époque, on ne se l'était jamais dit. Donc s'il y a deux témoins et pas un seul, ça peut être une chance d'exister. Il avait été frappé comme je l'ai été. Et ensuite, muni de cette clé qui en vaut d'autres peut-être, j'ai relu l'œuvre de Bach et je me suis aperçu d'un certain nombre de traces qu'il nous a laissées parlant de lui, pour répondre à votre question, de son angoisse. Chaque fois qu'il dit « Notre Père, toi qui es dans le royaume des cieux ». Mais quand il dit « Notre Père », il ne peut pas ne pas penser à son père, à lui, qu'il a vu couché, mort, devant lui, quand il avait 9 ans. Donc, il y a, chaque fois qu'il fait entendre le « Notre Père », le très beau cantique luthérien, si simple, si pur, il l'harmonise de façon torturée. Ah ! Donc, il ne peut pas dire « Notre Père » sans que aussitôt une crispation se manifeste. Donc, il nous parle de lui. Et c'est peut-être pour ça que je me sens si proche de lui.
C'est vrai que l'image d'un Bach torturé n'est pas celle qui est véhiculée généralement, mais la foi étant faite de doute, nous pouvons tout à fait...
Parfaitement, mais il nous montre à combien il doute parfois de sa foi, comme tous les grands croyants, vous venez de le dire. Bon, il y a 2-3 ans, on devait publier la correspondance de Mère Teresa en même temps qu'on parlait d'une éventuelle béatification à Rome. Et j'ai lu un article, je crois que c'était dans Le Monde, enfin je veux dire un article sérieux en apparence, de quelqu'un qui s'étonnait que l'on envisage de béatifier quelqu'un qui avait de tels moments de doute. Mais justement, c'est parce qu'elle doutait qu'elle a été une grande chrétienne et peut-être une sainte, je ne sais pas, parce qu'elle a médité cette foi et elle l'a remise en question. Jean-Sébastien Bach est assurément un très grand croyant, d'après ce qu'on peut entendre de sa musique. Et en même temps, c'est un homme qui doute, sans aucun doute, et qui en plus était ravagé par une angoisse existentielle terrible. Enfin, il a eu des traumatismes dans sa vie tels qu'il avait cette angoisse, mais... Justement, et c'est une banalité de le dire, tout le travail du créateur consiste à sublimer son angoisse personnelle, à surmonter ses doutes pour créer une espèce de monde idéal, une vision idéale du monde. C'est la musique de Jean-Sébastien Bach.
Voilà. Mais Gilles Cantagrel, vous conviendrez que la musique et l'œuvre, les fruits qu'il nous a offerts sont en adéquation profonde, malgré les moments de doute et qui font partie de la foi, comme nous le disions tout à l'heure, de sa musique et de son œuvre.
Oui, il y a quelques brèches.
C'est une vie en adéquation. Il y a quelques brèches.
Il y a quelques brèches qui lui échappent par moment, mais sinon, toute son œuvre est une construction vertigineuse de complexité, d'élan en même temps, pour colmater ces brèches, pour nous créer ce monde idéal, un petit peu comme on le voit dans des miniatures médiévales, notamment au XVe siècle, avec le Hortus Conclusus, le jardin clos, clos d'une haie végétale ou d'un mur au cœur duquel on voit ou bien la Vierge Marie tenant son enfant, ou bien un couple d'amoureux. Donc une sorte de protection d'un monde idéal intérieur.
Mais Gilles Cantagrel, certaines biographies, en dehors de celle de Bach, hein, puisque nous étions en train de dire le contraire il y a un instant, est-ce que certaines biographies de grands compositeurs, et souvent dans les romantiques, ne viennent pas faire obstacle à l'écoute de la musique ? Est-ce qu'il n'est pas dommage d'en savoir beaucoup sur la vie de certains compositeurs pour ne pas garder cette virginité au niveau de l'écoute de la musique et de la recevoir comme telle ?
Vous avez parfaitement raison, ça peut être un obstacle majeur. Parce que, d'abord, certaines biographies, pas les meilleures, partent de faits historiques, nous brossent à partir de ces faits historiques, de la correspondance, que sais-je, un tableau, des amours malheureuses de ce musicien, de ses échecs, que sais-je, sentimentaux ou professionnels, et muni de ça, on va aller écouter la musique. Ça, c'est, à mon avis, la démarche à ne pas faire. Dans tout mon travail, depuis plus d'un demi-siècle, je me suis efforcé de partir de la musique. Alors, j'étais la connaissance que l'on peut avoir avec les événements, les faits, les documents historiques les plus authentiques. Attention, il faut faire très attention dans le choix et la lecture des textes, des sources, d'une part, et d'autre part, de tout le contexte. Parce que, il y a 300 ans, on pensait forcément d'une façon différente de la nôtre, même si, au fond, le quotidien pouvait présenter des difficultés analogues à ce que nous connaissons, mais le mode de pensée était complètement différent. Mais toujours partir de la création, c'est-à-dire, en l'occurrence, de la musique. Et c'est la musique va finalement nous en dire beaucoup plus encore que les faits historiques.
Nous entrons, Gilles Cantagrel, dans Passion, Messe et Motet, Jean-Sébastien Bach, paru chez Fayard. Rappelez-nous ce qu'est une passion.
Oh, une passion, c'est à l'époque de Bach, un oratorio fondé sur le récit de la passion. Que ce récit soit emprunté à l'un des quatre évangélistes ou qu'il soit un récit poétique écrit par un écrivain de l'époque, comme M. Brockes par exemple, M. Rameler, des Hambourgeois, à partir des évangélistes, hein, qui nous narrent la passion du Christ de façon synthétique à partir des quatre évangélistes. Il est une tradition, depuis que l'Église est sortie du silence, de donner lecture pendant la Semaine Sainte, le Vendredi Saint en particulier, de récits de la passion du Christ, puisque l'Église en fait mémoire à ce moment de son année liturgique. Récit emprunté à l'un des quatre évangélistes, et puisque l'Église était sortie de l'obstruction, de l'interdit qui la frappait jusqu'à la conversion de Constantin, eh bien, on lit à haute voix, porté par l'émotion, porté par ce drame inouï, on élève la voix, on va se mettre à chanter, à chantonner pour porter la voix. Et puis d'autre part, on va distribuer les rôles comme une distribution, on dit un casting en français moderne, je crois. On distribue les rôles, un tel va faire Jésus, un autre va faire Pilate, un autre un garde, un centurion, la servante de Pilate, la femme de Pilate, que sais-je. Bon, donc on exalte en quelque sorte ce récit fondateur du christianisme. Eh bien, au fil du temps, on a mis en musique de diverses formes, des cantillations, des récitatifs, des motets au moment de la Renaissance et après. Schütz écrit les oratorios de la Passion qui sont une espèce de forme hybride entre le motet religieux et le récit. Et puis, au début du XVIIIe siècle, c'est la tradition qui s'établit de l'oratorio de la Passion. C'est-à-dire, et j'aime votre question parce qu'elle m'amène à dire ce que je n'arrête pas de répéter, dans leur écriture, les passions de Bach, comme celles de Telemann et des autres, c'est exactement un opéra. C'est-à-dire que l'évangéliste et les différents personnages s'expriment dans un récitatif, comme à l'opéra, et que, de temps en temps, eh bien, il faut libérer toute l'affectivité qui s'est chargée à l'audition de ce récit dans des airs qui contribuent à commenter ce qui vient d'être dit. Et en plus, alors la Passion a cette différence avec l'opéra, d'une part qu'elle n'est pas représentée, la musique s'en charge magnifiquement, que le sujet en est grave naturellement, qu'il n'y a pas les amourettes de Cléopâtre ou de qui vous voulez, et surtout parce qu'il y a un recours régulier au choral, c'est-à-dire le cantique de l'Église universelle, de l'Église luthérienne, donc de la collectivité tout entière, invitée ainsi à participer au drame que nous l'ont dit. Les fidèles n'étaient pas appelés à chanter eux-mêmes pendant ces exécutions de chorale, mais puisqu'ils les pratiquent depuis leur tendre enfance, ils les chantent mentalement, en tout cas, ça les invite au pied de la croix à participer à ce qui se passe.
Alors, vous évoquiez au cours de cette explication, par rapport à la Passion, vous évoquiez le mot de motet. Alors, c'est une partie de l'oratorio, le motet ?
Non, il n'y a plus de motet. À ce moment-là, il n'y a plus les motets comme les motets de la Renaissance, par exemple, non, sur des textes sacrés. Ça, c'est fini. Ce sont des airs à l'italienne, comme dans l'opéra italien. C'est le même langage exactement, si ce n'est qu'il est empreint d'une gravité toute particulière dans le cas de Bach et de ses passions. Il y a de même tout un figuralisme. Quand, par exemple, à la fin, juste à la mort du Christ dans la Passion selon saint Matthieu, et que Matthieu nous dit, et à ce moment-là, le voile du temple se déchira du haut en bas, et on entend une espèce de sifflement extraordinaire de triple croche de violon sur deux octaves, de haut en bas, qui nous figure. On le voit, le voile du temple qui se déchire. Et ensuite, la terre tremble, et les rochers se fendent, et on entend la contrebasse qui fait un bruit terrible. Et on le voit littéralement. Je veux dire qu'on est presque dans un monde de la représentation. Représentation presque matérielle, en tout cas spirituelle. C'est le même langage que l'opéra, exactement.
Musique figurative.
Elle est complètement figurative et ça va beaucoup plus loin que ce que je dis parce que il y a toute une symbolique musicale à l'époque de Bach, surtout chez lui d'ailleurs, développée par lui, à savoir par exemple que le soprano est l'incarnation de l'âme dans la félicité. L'alto, c'est au contraire l'âme dans la souffrance. Bon, voilà, je ne prends que ces deux exemples-là. Chaque fois qu'on va entendre un alto chanter, il y a majoritairement des airs d'alto, forcément, dans les passions, c'est l'expression de la souffrance, de la douleur, de la commisération, de la compassion. Mais il arrive qu'on entende le soprano, et notamment après la mort du Christ. Le soprano qui dit « mais maintenant c'est merveilleux », alors que le Christ vient de mourir sous les yeux. Mais oui, ce qui est merveilleux, c'est que le Christ qui est venu pour accomplir le plan de la rédemption, nous dit l'histoire, eh bien, il vient d'accomplir cette mission et maintenant je suis sauvé, disent des croyants. Là, je ne suis pas en train de vous faire du catéchisme, ce n'est pas ma spécialité et je respecte les points de vue de chacun, mais il s'agit de ça. Bon, donc Bach dit maintenant, c'est lui qui s'exprime par la voix du soprano, maintenant, au fond, ce drame épouvantable qui vient de me bouleverser, mais au fond, mais je suis sauvé. Alors merci, j'ai le droit d'être heureux. Ce qui est presque un contresens, mais c'est tellement fort quand on comprend mot à mot tout ce qui se dit, bien sûr, y compris dans les airs. Car les airs qui ont été écrits par les écrivains de l'époque, hein, en l'occurrence M. Picander, un collaborateur de Bach, qui n'était pas un grand écrivain, qui était percepteur de l'impôt sur les boissons à Leipzig, mais qui écrivait, bon, des livrets, qui était le fournisseur attitré de Bach, qui devait être par-dessus son épaule parce que lui connaissait beaucoup mieux la théologie que quiconque à l'époque, eh bien, ces airs ont été, ces textes ont été vilipendés. Oh, mais non, c'est un peu ridicule, c'est un petit peu, comment dirais-je, cuculapraline, enfin, bon, un peu Saint-Sulpice, un peu, bon, lénifiant, mais pas du tout. Il y a un grand théologien allemand, mon ami Martin Petzold, professeur de théologie systématique à la faculté de théologie de l'université de Leipzig, excusez du peu, et qui est président de la société Bach internationale, qui a publié 3 volumes énormes, enfin le troisième est sous presse, dans lesquels il prend tous les textes de toutes les cantates de Bach, ligne après ligne, quand c'est en vers, il dit d'où ça vient. Il dit, ça, c'est une paraphrase de tel verset, de tel écrit d'Ancien Testament, ou quelquefois, ce sont des citations intégrales. Et puis alors, il y a quelquefois des moments de liberté dans les textes. Et je pense, puisque je disais à propos de la patience dans Saint Matthieu, après la mort du Christ, eh bien, vous savez, il y a Joseph d'Arimathie qui vient demander à Pilate l'autorisation d'emporter le corps, ce qui n'était pas en droit romain, ce qui ne se faisait pas après une exécution capitale d'un malfaiteur, et pour l'inhumer dans un tombeau tout neuf qu'il a acheté récemment. Et Pilate lui donne l'autorisation. Un peu avant, il y a des anciens qui disent « mais il a dit qu'il ressusciterait au bout de 3 jours, donc il faut fermer le tombeau, mettre des gardes ». Alors Pilate dit « débrouillez-vous, prenez des gardes dans vos troupes et puis fichez-moi la paix », ou à peu près. Il les envoie comme ça. Et puis, donc, tout est fini. On devrait s'arrêter là. Et il y a encore des épisodes de méditation absolument bouleversants, dont, pour commencer, un arioso de basse qui est très court, donc une sorte d'air très libre, hein, de basse, très court, et qui, moi, m'émeut au plus haut degré. Alors, dans ce livre, où j'ai donné aussi toutes les traductions, naturellement, je l'ai traduit, comme le reste, en étant aussi près que possible du texte allemand, pour que l'amateur, le mélomane, puisse suivre autant que faire se peut ce que dit la musique. Mais j'aimerais que un grand écrivain se charge de faire une belle traduction littéraire, comme Racine l'a fait pour certains psaumes, ou comme Clément Marot et Théodore de Bèze ont traduit les psaumes dans le psautier de Genève. Et alors, à ce moment-là, il y a cet air extraordinaire dont je vous donne tout de suite la traduction littérale. Il dit voilà. Ce drame s'est passé dans la journée, le Christ est mort à la 9e heure, donc c'est déjà le début de la soirée. Et voilà cette méditation, toute simple. Ce fut un soir, alors que montait la fraîcheur, que se révéla la faute d'Adam. Et là, il veut dire, c'est le péché originel, c'est pourquoi il faut racheter l'humanité. Bon. Ce fut au soir que le Sauveur abattit la faute. Donc, ce qui vient de se passer, il a piétiné le péché originel, c'est fini. Ce fut au soir que revint la colombe portant en son bec un rameau d'olivier, c'est-à-dire le moment où le châtiment de Dieu, de l'humanité par Dieu, ayant préservé seulement les espèces dans l'arche de Noé, a pris fin. La réconciliation. Ô beau moment, heure du soir, la paix est maintenant faite avec Dieu, car Jésus a accompli sa croix. Sa dépouille est rendue à la paix. Prie, âme bien-aimée, laisse venir à toi ce présent Jésus mort. Ô précieuse et salutaire mémoire. Moi, je trouve ça extraordinairement émouvant. C'est simple, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut adhérer, peut sortir son mouchoir. C'est simple et émouvant et très fort.
Si nous vous entendons bien, Gilles Cantagrel, vous nous expliquez par là qu'en posant sa musique sur les textes fondateurs, Jean-Sébastien Bach nous livre sa propre interprétation.
Ça, c'est certain. Alors, d'abord, permettez-moi de réfuter ce terme de poser, qui est le terme qu'on a envie de l'employer. Mais je pense qu'il soulève le texte de sa musique, il le projette à l'Assemblée des fidèles, il l'orne et, votre question, il le commente. C'est-à-dire que toute la dramaturgie qui est extraordinairement subtile, l'agencement de tous ces morceaux autour du récit évangélique, dans l'une et l'autre des 2 passions qui nous sont restées de lui, sur les 5 qu'il aurait composées, nous dit son fils, eh bien, tout cela relève d'un dramaturge expérimenté qui, en l'occurrence, par cette mise en scène sonore, le moment où intervient un choral, les paroles d'un air, les paroles d'un choral, cette marqueterie, cette mosaïque absolument prodigieuse, elle est là pour pratiquer, non seulement pour nous exalter dans la méditation et dans la prière, mais pour pratiquer l'exégèse, c'est-à-dire le commentaire des textes sacrés. Et là, Bach se révèle, bon, un théologien de toute première force, parce que il utilise tous les moyens sonores de son génie, en plus de la dramaturgie à laquelle je fais allusion, pour interpréter les textes, pour nous donner à les mieux comprendre, à les mieux entendre. Car n'oublions pas que, quand on jouait l'une ou l'autre de ces passions aux vêpres du Vendredi Saint, les gens qui venaient là, de même que le dimanche, ils ne venaient pas pour écouter de la musique. Pas du tout. Ils venaient à un office liturgique. Et ils venaient écouter le récit de la Passion. Il se trouve que ce récit était magnifié, exalté, interprété, commenté par le génie de la musique de Bach. Mais ce qu'ils venaient écouter, c'était un texte. C'est tellement vrai que, de même que pour les cantates, à l'entrée de l'église, on distribuait les livrets imprimés de ce qu'allait être chanté et joué. Donc, on vient écouter un texte, mais ce texte exalté, qui en plus a un rôle triple, je dirais, l'énoncé du texte, un rôle catéchétique et un rôle exégétique. Ça, c'est le miracle, c'est le travail de Bach, musicien d'église. Il y a aussi un Jean-Sébastien Bach, musicien profane, qui fait danser les gens, qui les fait se réjouir en ce temps où il n'y avait pas de frontière entre la vie de la cité et la vie de l'église.
Mais dans l'église, au sein de l'église, quelle messe ! Accompagné par
oui.
Alors, quelle musique !
Ça devait être inouï, vous savez. Moi, je vais souvent à Leipzig et je ne manque pas d'aller à la grand-messe à Saint-Thomas parce qu'elle se déroule d'une façon assez comparable à ce que c'était il y a 300 ans. Des choses ont changé, notamment la longueur de l'homélie, du sermon, qui est aujourd'hui entre un quart d'heure et 20 minutes. J'ai le vilain défaut de regarder ma montre à ce moment-là, mais c'est simplement pour essayer de comprendre. À l'époque de Bach, c'était entre une heure et demie. Mais parce que il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas très peu de journaux. Donc, beaucoup de choses passaient par cette liturgie de la parole. Bien. Mais quant à la musique, on a de la musique tout le temps. Il y a l'orgue qui joue, il y a les instruments, il y a la cantate, des motets éventuellement, là, en dehors de, donc, des passions, et puis les cantiques que toute l'assemblée chante d'une seule voix. Quand on voit et entend 700 personnes dans l'église qui chantent, qui ont évidemment, comme à l'époque, le texte sous les yeux, avec la musique, puisque tout le monde sait lire la musique, ils chantent d'une seule voix, mais à pleine voix, pas avec un petit grelot, à pleine voix, fermement, bien en mesure, les cantiques avec toutes les strophes, c'est très impressionnant. On a un sens de la communauté paroissiale, d'une part, et puis on comprend à quel point cette tradition a façonné un peuple, a façonné la mentalité même des gens. Donc, les messes étaient une liturgie de la parole doublée d'une liturgie de la musique, les deux allant de pair. La cantate n'est pas autre chose qu'un double de la prédication sur le même thème, on le sait très bien. Donc, mais alors, traiter d'autres moyens qui sont ceux de la musique, à mon avis, bien supérieurs aux pauvres moyens des simples mots du prédicateur. Bon, là, on touche à quelque chose d'immatériel. C'est Luther lui-même qui le disait. La musique nous met en communication immédiate avec le surnaturel. Bon, donc, c'est bien ça. Eh bien, quelle chance ils avaient, n'est-ce pas ?
Quelle chance ils avaient. Et quelle chance ils continuent de poursuivre.
Oui, bon, alors, dans un contexte, évidemment, complètement différent. Donc, c'est un peu un rituel, mais
comparativement, musicale...
Ah oui, par rapport aux liturgies catholiques de notre temps, Dieu sait si elles ont été belles jadis, mais bon, qui sont...
Autre chose.
Alors, disons autre chose.
Gilles Cantagrel, Jean-Sébastien Bach, Passion, Messes et Motets. Cet ouvrage s'adresse à qui ? À moi, auditrice grand public, à des mélomanes avertis, à un cercle d'initiés en musicologie ?
Non, je veux vraiment m'adresser à tout le monde. Ce livre fait la suite, c'est un petit livre, il ne fait que 420 pages, par rapport au précédent sur les cantates qui en faisaient presque 1700. Donc, avec chaque fois un commentaire historique, un commentaire spirituel ou dramatique pour les cantates profanes, un commentaire musical général, et puis morceau par morceau, le texte allemand avec en juxtalinaire la traduction française et en dessous un commentaire individuel. Quelquefois réduit à 10 mots et quelquefois occupant une page parce qu'il y a beaucoup à dire, simplement pour aider à écouter. Je suis très modeste, je ne veux pas faire plus que ça. Et j'ai tenu absolument, comme dans, je crois, toute mon activité de conférencier ou d'enseignant, à utiliser des mots simples, des mots que tout le monde peut connaître. Donc si vous aimez la musique de Bach, vous pouvez lire ce livre. Vous n'avez pas besoin de connaître l'allemand, je vous donne la traduction. Vous n'avez pas besoin de connaître la technique musicale, c'est pas nécessaire. Je vous explique. J'essaie de prendre l'auditeur de bonne volonté par la main et de faire ça quand même avec un certain sérieux, de telle sorte que l'étudiant, voire le musicologue, le passionné, il trouvera quand même son compte. Mais n'importe qui peut le lire, et d'ailleurs j'ai fait des tests, et j'ai constaté des choses merveilleuses, figurez-vous, je pense là aux cantates, j'ai rencontré il y a quelque temps une dame d'un certain âge qui me dit faire son petit jogging tous les matins, elle a bien raison, et alors elle enregistre une cantate différente chaque jour, dans l'ordre de l'année liturgique, dans l'ordre du livre, et elle se l'écoute en boucle, c'est-à-dire qu'une cantate qui dure 12 minutes, si elle marche pendant 3 quarts d'heure, elle va l'entendre 3 fois, 4 fois, que sais-je. Et elle m'a dit que le soir, elle reprenait la cantate dont elle s'était imprégnée avec le livre, cette fois, et qu'alors là, c'était le bonheur. Je n'ai jamais été que l'instrument, le passeur, entre le texte et puis l'écoute. C'est tout ce que je veux faire. Mais pour être le passeur, bon, il faut être simple, clair et efficace.
J'avais la réponse en vous posant cette question, Gilles Cantagrel, bien évidemment, puisque j'ai lu votre ouvrage, mais je souhaitais vous faire réagir, c'était une question provocatrice. Et pour confirmer ces derniers propos que vous venez de tenir, votre éditeur Fayard ajoute en quatrième de couverture l'érudition de Gilles Cantagrel s'exprimant toujours dans un langage des plus clairs. Voilà, merci de votre venue devant les micros de Canal Académie pour évoquer Jean-Sébastien Bach, Passion, Messes et Motets, paru donc chez Fayard. Merci Gilles Cantagrel.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être à Canal Académie.